Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 2 août 2018. Monique Kirouac à l'animation. Aujourd'hui, comme nos collègues Marie Lalande et Yvan Deslauriers ont décidé de prendre une petite pause et donc de rouler vers d'autres horizons, eh bien, c'est Francis Marin qui partagera la lecture d'articles avec moi.
Bonjour.
Et bien sûr, en régie, Maurice Bolduc, qui sera au choix musical et bien sûr à la mise en ombre. Monsieur Marin, de quoi allez-vous entretenir nos auditeurs aujourd'hui?
Bon, ben, comme d'habitude, avec trois sections, trois textes qui mettent en vedette la respiration et les profits qu'on peut en tirer. Le premier décrit un peu ce qu'est la vraie respiration en profondeur.
Oh là là!
C'est creux. Et explique comment elle améliore la circulation et réduit le stress.
D'accord.
Le second décrit le fonctionnement de la méditation pleine conscience.
Ah, sujet... On entend beaucoup parler de la pleine conscience. Est-ce qu'on dit aussi mindfulness?
Oui, à l'origine, c'était le mindfulness, mais c'est devenu la pleine conscience.
C'est devenu la pleine conscience, d'accord.
Au Québec. Et donc, ses avantages, fonctionnement et avantages.
D'accord.
Et le dernier expose le texte qui est à l'origine de la méditation.
Ah, d'accord. Ah, donc, on termine par ce qui...
Oui, un petit bout en sanskrit.
Ah, d'accord.
Et ensuite, on décrit l'actualisation du texte au 20e siècle et ses nouvelles applications ici et même à l'Université de Montréal.
Ah, d'accord. Mm-hmm. Donc, on va déjà... On respire profondément...
C'est ça.
Et on passe aux articles que je lirai.
Oui.
Alors, un premier article qui, sur une réalité qui nous touche intensément depuis quelques jours, la canicule. Alors, on explorera quelques solutions que les recherches ont mis de l'avant. Ensuite, un article sur le rôle que peuvent jouer les plantes pour identifier des dangers qui... occupe l'air ambiant, soit de nos appartements. En complément, un petit article sur la taille des arbres. Je vous dirai un peu plus tard. Et finalement, un article qui traite des lacunes dans certaines études cliniques, surtout en regard des femmes et des personnes plus âgées. Le fait qu'ils ne soient pas inclus dans ces études, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Alors voilà, chers auditeurs, commençons.
J'attends ce que j'ai.
Alors voilà, Francis.
Oui, alors notre premier texte, c'est sur la respiration. Le titre, Comment utiliser la respiration pour son bien-être, c'est extrait du site internet Qualita, qui est le site du réseau des cliniques d'ostéopathie agréées. Il a été publié le 11 janvier 2012. Mm-hmm. C'est un vieux texte, mais la respiration aussi, c'est relativement vieux.
On a besoin de ça, je pense, tous les jours, n'est-ce pas?
Par M. Robert Rousse, qui est ostéopathe. Donc, savoir respirer. La plupart des gens avouent ne pas savoir respirer. D'autres ne savent même pas qu'ils peuvent respirer dans tout leur corps. On pourrait dire qu'ils sont en apnée permanente. Utilisés depuis des millénaires en yoga, en gymnastique, en tai chi, en relaxation ou en méditation, la respiration est essentielle pour la vie. Elle permet d'améliorer la circulation, de combattre le stress, de prendre conscience de son corps, notamment du fait de serrer les mâchoires quasiment en permanence. C'est un problème. Améliorer la circulation. Respirer, c'est inspirer et expirer, évidemment, c'est-à-dire permettre au principe de vie de s'exprimer à travers notre corps. Le yin et le yang, l'inspiration et l'expiration. C'est permettre aux échanges cellulaires de s'effectuer de façon satisfaisante, que ce soit au niveau artériel, veineux ou lymphatique. N'oublions pas que le corps est constitué de 75% de liquide et que cette masse liquidienne doit circuler.
Donc, la respiration permet cette circulation plus harmonieuse.
Oui, lorsqu'elle est bien comprise et exécutée, absolument.
D'accord.
Combattre le stress. La respiration permet de relâcher la tension engendrée, pardon, par toutes sortes de stress, physiques, émotifs, psychologiques ou autres. Bien utilisée, c'est l'arme anti-stress par excellence, pratique en toutes circonstances. Certains professeurs font d'ailleurs effectuer des exercices respiratoires à leurs élèves dès qu'ils rentrent en classe. Utiliser la respiration, c'est se forcer à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, au lieu d'être constamment accaparé par les sollicitations, pardon, du monde extérieur. Bureau, trafic, bruit, agressivité, etc. Comment respirer?
On écoute bien, n'est-ce
Voilà.
pas, Maurice?
Bien entendu, physiologiquement, la respiration se fait avec les poumons situés dans le thorax. Il paraît. Mais on peut également gonfler ou rentrer son ventre en inspirant et en expirant en utilisant la poussée de son diaphragme. C'est un bon début, mais c'est une pratique qui ne s'adresse qu'à la structure corporelle. Il y a autre chose. Je veux parler de la respiration totale du corps. En utilisant la conscience du souffle, comme on le fait en yoga. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous remplissez toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez, comme lorsque l'on gonfle un ballon à l'aide d'une pompe. Dans ce cas, la poussée de l'air à l'intérieur de celui-ci se fait d'une façon uniforme dans toutes les directions. Il peut en être de même de la respiration humaine. C'est ce qu'on devrait sentir si tout était libre dans notre corps. On a du travail à faire.
Oui.
On devrait pouvoir remplir et dilater chaque endroit de notre corps dans toutes les directions à l'inspiration et le laisser se dégonfler à l'expiration. On est souvent très loin du compte. Serrer les mâchoires. Dès que le corps est en situation d'inconfort, quel qu'il soit, physique, émotif, psychologique, inconsciemment, le premier réflexe du corps, c'est de serrer les mâchoires. On dit souvent serrer les dents pour passer à travers.
Oui, oui,
C'est un
oui.
réflexe.
C'est intéressant de voir l'image.
Que ce soit inconscient ne change rien à l'affaire, car cela a pour effet de bloquer l'expansion latérale du corps. Évidemment, c'est un ostéopathe qui parle. Donc, de ralentir le rythme crânien et par là même celui de tous les tissus du corps. Ce qui fige, pardon, la circulation globale des 75% des liquides du constituant. Le jour, cette posture liquidienne, donc la circulation des liquides, est atténuée par le fait que nous parlons, que nous mâchons des aliments, que nous bougeons notre mâchoire, mais la nuit, le piège se referme. La tension prend le dessus et nous grinçons des dents et nous réveillons le matin avec une tension terrible dans tout le crâne et la sensation d'être plus fatigué que lorsqu'on s'est couché. Prendre conscience de cette tension permanente durant le jour est le premier pas vers un état de détente. Utilisez ensuite la respiration qui va redonner un rythme au tissu, inspiration, expiration, gonflement, dégonflement, et donc favoriser les échanges tissulaires pour apporter à long terme un bien-être qu'aucune pilule ne peut procurer. On ne cherche pas à anesthésier la douleur de l'extérieur, mais plutôt à apporter le bien-être par la prise de conscience de ce qui nous gêne à l'intérieur, physiquement. En résumé, oui, tout le monde peut se soulager grâce à de simples exercices de respiration, à condition que l'on ait au préalable pensé à desserrer les mâchoires. Donc, l'article était de Robert Rousse, ostéopathe, publié dans le site Qualita. Robert nous a quittés il y a bientôt 2 mois.
Ah,
Salut Robert.
ouais. Alors, la canicule. Un article de Vincent Nouiriga pour la revue Science et Vie des mois de mars, avril, mai 2018. Il s'intitule « Face aux canicules, quelle solution pour nos villes ?» C'est un article qui est publié dans une revue française, alors c'est sûr qu'on s'intéresse d'abord aux villes de France, entre autres Paris et Lyon, mais je pense qu'on pourrait très très bien appliquer ce qui est proposé de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors attention, surchauffe. D'ici à la fin du siècle, le changement climatique risque de rendre nos villes invivables à force de canicules pour lesquelles elles ne sont pas préparées. Ou en tout cas, très peu, vous allez le constater. Il faut dire qu'il est prévu que, dès 2070, le thermomètre grimpe de 2,5 degrés Celsius, puis de 4 degrés Celsius en 2100. Et ça, c'est dans la région parisienne, entre autres. Mais je pense que on peut appliquer ça à Montréal, entre autres, aussi. Des épisodes toujours plus caniculaires, auxquels n'échapperont pas Lyon, Grenoble, Montréal, Québec, etc., et les autres grands pôles urbains. Alors, on le constate, la période de chaleur est beaucoup plus longue cette année dans notre environnement, et partout, semble-t-il, à travers la planète. Au lieu d'une seule alerte à la canicule par an, en moyenne dans la capitale parisienne, les simulations de scénarios pessimistes indiquent 10 à 26 alertes par an à la fin du siècle. C'est quand même impressionnant. Sachons qu'une canicule, c'est au moins 3 jours consécutifs où la température maximale dépasse 31 degrés Celsius, et où la minimale ne descend jamais en dessous des 21 degrés Celsius. Or, le refroidissement nocturne est essentiel à la récupération des organismes. Alors, si les nuits, comme on le constate, ne descendent pas en bas de 21, c'est très difficile de récupérer, surtout si on n'a pas la climatisation. C'est que les villes, à la fois très denses et minérales, c'est-à-dire béton, etc., forme un amplificateur de chaleur redoutable lorsqu'on ne peut pas compter sur, par exemple, une petite brise, un petit vent doux. En moyenne, par exemple, Paris est de 2,5 degrés Celsius plus chaud que la campagne environnante. Alors, on l'a tous vécu, même au Québec, si on va à l'extérieur de Montréal, tout de suite, la température chute également. L'îlot de chaleur urbain, voilà la plaie des étés en ville. Le bitume des rues, le béton des immeubles emmagasinent la chaleur pendant la journée et la restituent pendant la nuit, ne laissant aucun répit. Un phénomène artificiel qu'aucun urbaniste n'a encore cherché à contrecarrer. Il le faudra pourtant, au vu des fortes chaleurs redoutées à l'avenir dans les villes. Ainsi, le confort thermique des citadins à l'intérieur des immeubles, comme dans la rue, en pleine canicule, est-il devenu un sujet de recherche à part entière? On en est bien content, n'est-ce pas? Objectif, repousser, évacuer, esquiver et extraire cette chaleur étouffante, en un mot, refroidir les cités. Il existe une large palette de solutions ancestrales, celle-là, développées en milieu externe, que ce soit chez les Perses ou dans l'architecture arbo-andalouse. Le problème est qu'il est délicat d'intervenir dans les villes bien construites. Intuitivement, la bonne idée serait de renvoyer directement le rayonnement solaire à la manière d'un village grec, aux murs et aux toits d'un blanc immaculé. Peindre en blanc les villes. Est-ce que c'est imaginable? Oups!
D'ailleurs, maintenant, on voit de nouvelles toitures qui sont blanches plutôt que noires.
Oui, exactement. Alors, un bouleversement difficilement par ailleurs acceptable, M. Marin. Des solutions moins choquantes sont donc envisagées comme des revêtements aux couleurs neutres capables de réfléchir le spectre infrarouge. L'idée d'adopter volets et persiennes, si répandues dans le sud de l'Europe, est aussi à l'étude. ce qui n'existe plus au Québec, mais qui a déjà, je pense, un peu existé. Lors des vagues de chaleur, la municipalité de Lisbonne déploie au-dessus des rues de vastes toiles humidifiées. Assez intéressant. Autre solution envisagée, le verdissement massif des milieux urbains, c'est-à-dire la multiplication des espaces verdoyants en lieu et place des surfaces minérales, bitume, béton. L'avantage? Bien, en réalisant leur photosynthèse, les végétaux exploitent directement l'énergie solaire et transpirent l'eau puisée par leurs racines, générant alors un aérosol rafraîchissant, auquel s'ajoute l'effet de l'ombre porté par les arbres. La formation d'îlots de chaleur un peu partout passerait aussi par quelques manœuvres tactiques. Alors, on teste actuellement à Paris et à Lyon l'arrosage des rues afin d'améliorer le confort thermique des piétons en pleine journée. Nous, on nettoie de chaque côté de la rue en alternance, mais là, ce serait vraiment d'arroser carrément l'ensemble de la rue. Certains envisagent aussi de petites zones humides dans les rues qui dissiperaient les apports solaires en s'évaporant. Bassins et fontaines se révèlent le moyen efficace, le plus efficace, pardon, pour rafraîchir l'atmosphère localement. On a vu la popularité des fontaines à la place des spectacles, etc.
D'ailleurs, à New York, à Harlem, les citoyens se sont emparés des bornes fontaines pour en faire des fontaines, justement, avec les enfants qui jouent avec l'eau qui ruisselle.
Alors, voilà, ça peut alléger un peu la lourdeur de l'humidité, en fait. Réfléchir, ombrager, évaporer, ces adaptations techniques n'auraient qu'une efficacité limitée sans une grande remise en question des comportements des habitants. À commencer par quelques réflexes, fermer ses volets ou enfin, chez nous, les stores peut-être, durant la journée, aérer le soir et s'hydrater. Alors, j'espère que le Québec sera au rendez-vous, que nos urbanistes, nos architectes vont y réfléchir et nous apporteront assez rapidement des solutions.
En résumé, on pourrait dire que la canicule, c'est vraiment pas cool.
C'est vraiment pas cool, exactement. Donc, c'était un article de Vincent Nouy-Réga pour la revue Science et Vie des mois de mars, avril, mai 2018.
Mais où êtes-vous donc, camarades d'espérance? De quel monde êtes-vous, citoyens maintenant? Votre jardin grand est le fossé immense. C'est la nuit qui fait peur ou c'est l'indifférence?
C'est la nuit qui fait peur ou c'est l'indifférence?
Je me veux citoyen de la mémoire du monde, d'une parcelle de terre métissée d'Amérique. Au chemin d'habitants s'ajoutent de nouveaux pas. Et bien mon monde à moi est fait de ces gens-là.
Et bien mon monde à moi est fait de ces gens-là.
Le je tire alors au nous, le nous tire alors à vous, la terre, la mer et du fou. Sa maison, tendant la main à l'autre, tu voudrais te nommer un nom à partager. Pour nous, c'est compliqué. Le peuple québécois, pour accueillir des gens, il te faut bien un toit.
Pour accueillir des gens, il te faut bien un toit.
Vous voyez une fin, moi je vois le prélude, pas de pays brisé, un nouveau à souder, la possibilité d'imaginer faire mieux avec les mots de ceux qui ont nommé les lieux.
Avec les mots de ceux qui ont nommé les lieux.
Le jeune tire alors au nous, le nous tire alors à vous, la terre.
Nous sommes déjà cette nation ouverte. Aujourd'hui, il est temps de se choisir ici. Nous avons ce qu'il faut, de jeunes et de génie. On connaisse un pays au reflet de nos vies. Mais où êtes-vous donc, camarades d'espérance? De quel monde êtes-vous, citoyen maintenant? Votre jardin est grand et le fossé immense. C'est la nuit qui fait peur ou c'est l'indifférence?
C'est la nuit qui fait peur ou c'est l'indifférence?
Le jeune tire alors au nous, le nous tire alors à vous. La terre, la mer et les fous de vous tirent d'où?
Le jeune tire alors au nous, le nous tire alors à vous. La terre, la mer et les fous de vous tirent d'où? Le jeune tire alors au nous, le nous tire alors à vous. La terre, la mer et les fous debout tirent loup.
Le vent du Nord et de temps en temps nous chantait « Camarade ».
Ça fait du bien, le vent du Nord. Ça nous rafraîchit. C'était bien pensé, ça, Maurice. Alors, Francis, vous poursuivez avec toujours la respiration, oui. Mais là, on s'attarde plus à la pleine conscience.
C'est ça.
D'accord.
Qui se base sur la respiration. L'article est tiré du site Jobboom. Et comme ce site pratique la mauvaise habitude de n'identifier ni le moment de publication, ni l'auteur, on ne sait pas trop qui l'a fait, ni quand. Mais ça s'intitule « La méditation pleine conscience et le burn-out ». Basée sur les fondements de la méditation bouddhiste, la méditation pleine conscience, aussi appelée « mindfulness », est un mouvement occidental thérapeutique ayant pour but d'apaiser le stress et l'anxiété, ainsi qu'à diminuer, voire éliminer, les effets de la dépression. Voici quelques explications sur ces fondements et les bienfaits que sa pratique peut avoir sur votre vie personnelle et professionnelle. Créée en 1975 par Jon Kabat-Zinn, un professeur de médecine et fondateur du Center for Mindfulness in Medicine, Healthcare and Society, la méditation pleine conscience est aujourd'hui largement appliquée dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, comme étant une thérapie cognitive efficace contre l'anxiété et contre la dépression. Au cours des dernières années, la méditation pleine conscience a pris racine hors du cadre médical traditionnel et est maintenant enseignée et pratiquée dans de nombreux centres indépendants et privés. Une simple recherche Google permet de trouver de nombreux centres, studios ou cliniques offrant des séances de méditation pleine conscience. Même l'Université de Montréal offre des séances d'apprentissage de ce style de méditation. Nous en parlerons dans l'article qui suit. Il y a une raison bien précise pour laquelle cette pratique devient si populaire. Elle est simple, c'est que ça marche. Comment fonctionne la méditation pleine conscience? La méditation pleine conscience se pratique sans aucun équipement. Le pratiquant doit simplement se retrouver dans un environnement calme et silencieux et être disposé à rester dans une position fixe et confortable durant un minimum de 10 minutes.
C'est quand même pas très long.
Et c'est pas compliqué.
D'accord.
Le pilier de base de la méditation pleine conscience est de concentrer toute son attention sur sa respiration. La personne doit alors respirer de façon normale, sans forcer, en se concentrant sur la sensation de l'air qui entre dans ses poumons, de la poitrine qui se gonfle et, finalement, de l'air qui s'expulse des narines. 100% de l'attention doit se concentrer sur la respiration. En ne faisant que vous concentrer sur votre respiration, vous devez, de façon naturelle et sans forcer, ne penser à rien. C'est ce qui est le plus difficile dans la pratique de la méditation pleine conscience. Au début, ce sera presque impossible. Vous parviendrez peut-être à ne penser à rien, complètement à rien.
Ah, mon Dieu, ça c'est difficile.
C'est difficile, il faut que ça soit total au complet.
Oui.
Alors donc, à ne penser à rien pendant 10 secondes sur une période de 10 minutes. Après cette période de 10 secondes, soudainement, vous surprendrez votre esprit à vagabonder dans ses pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes plus « focus », vous devez simplement vous concentrer sur votre respiration, sans lutter contre les pensées. Le tout se fait dans un mouvement mental très fluide. Pour vous aider, vous pouvez également essayer de faire du bruit avec votre respiration, de manière à avoir une sorte de stimuli acoustique sur lequel vous concentrez en même temps que l'expulsion de l'air. Cela vous servira comme d'un mantra sonore. Si après plusieurs tentatives, vous n'y arrivez toujours pas, vous pourriez alors essayer de vous concentrer sur les battements de votre cœur, tout en restant concentré sur la respiration. Au début, la pratique de la méditation pleine conscience peut être très décevante, car sur une période de 10 minutes, vous ne parviendrez à ne penser à rien qu'à peine 30 secondes en tout. Par contre, avec la pratique, vous parviendrez à augmenter considérablement le temps de vide mental. Et c'est à ce moment que vous ressentirez le réel bienfait de la méditation sur votre vie de tous les jours. Attention! Le but de la méditation pleine conscience n'est pas de bloquer les pensées négatives. Le but est plutôt de laisser ces pensées vous traverser, passer, et simplement de ne pas les laisser vous affecter. Lorsque vous êtes en train de réaliser que votre attention est préoccupée par une pensée négative, ne faites que l'accepter, sans porter de jugement, pour vous reconcentrer sur votre respiration. En y parvenant, vous permettez alors à votre subconscient de ne plus s'affoler à la venue d'une pensée négative, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus fort mentalement et de ne pas ruminer vos pensées négatives ou de voyer du noir. Les experts recommandent idéalement de débuter la pratique de la méditation au rythme de 2 séances de 20 minutes par jour. Mais déjà, une fois 10 minutes, c'est bon. Alors, mieux vaut commencer que de se mettre des objectifs irréalisables.
Oui, tout à fait.
Prévenir le burn-out grâce à la méditation. En septembre 2015, l'Université de Pennsylvanie a publié l'une des études les plus complètes à ce jour en lien avec la prévention du burn-out et la méditation pleine conscience. Grâce à 144 participants divisés en 5 groupes de contrôle, les chercheurs ont pu clairement démontrer un résultat conscient et mesuré sur la détresse psychologique et le stress dans les situations de travail autant que personnelles. La méditation pleine conscience est donc une thérapie efficace contre l'épuisement professionnel.
Alors, merci beaucoup, Francis. On va respirer un peu pendant la pause. Alors, si vous voulez d'autres informations sur justement la respiration, si les plantes qui clarifient l'air vous intéressent, alors revenez-nous après la pause et cette chanson.
Vous écoutez les voix de service.
Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. Thank you. j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.
Service, c'était Madeleine Pérou, la javanaise.
Merci, qu'on adore cette chanson. Alors, sous la plume de Renaud Manuguera Gagné, pour le site Info Radio-Canada du 27 juillet 2018, un article intitulé « Des plantes d'intérieur pourraient nous prévenir des dangers dans l'air ». Oh, wow! Si les plantes pouvaient communiquer, quelles informations nous fournirait-elle? Eh bien, des chercheurs estiment qu'il serait possible de modifier des plantes d'intérieur pour qu'elles puissent non seulement mesurer la qualité de l'air, mais aussi nous prévenir quand celle-ci se détériore. Détecter des contaminants dans l'air de nos maisons grâce à nos plantes? Pour certains chercheurs, il s'agit d'une idée qui serait réalisable. À l'heure actuelle, nos plantes en pot ont surtout un rôle décoratif, bien que des études aient documenté l'effet positif qu'elles exercent sur l'humeur de leurs propriétaires. Mais leur rôle dans le contrôle de la qualité de l'air semble exagéré. Et il faudrait en fait posséder une grande quantité de plantes d'intérieur pour constater un impact. Mais parfois, l'autosuggestion suffit. Toutefois, les plantes sont de véritables laboratoires de chimie, capables de puiser de l'information sur l'air et sur le sol à un endroit fixe, 24 heures sur 24. Si l'on trouve le moyen de savoir ce qu'elles vivent, cela donnerait accès à une quantité incroyable de données sur l'environnement qui nous entoure. L'idée de modifier des plantes pour s'en servir comme appareil de détection n'est pas nouvelle. Des chercheurs ont déjà modifié génétiquement un plant de tabac pour qu'il puisse alerter les agriculteurs de la présence de bactéries causant des maladies dans leurs champs ou leurs serres. L'avertissement était possible grâce à l'ajout à la plante d'un gène qui ne s'active qu'en présence de molécules émises par les bactéries. Alors, à leur contact, les feuilles produisent une protéine fluorescente orange, puis émettent une lueur une fois au contact d'une lumière verte. Des chercheurs veulent maintenant appliquer ce principe aux plantes de maison. L'objectif serait d'avoir un moyen de détecter facilement les menaces pour la qualité de l'air, comme les moisissures ou le gaz radon. Alors ça, pour moi, c'était nouveau, le gaz radon, mais je vais vous en parler un petit peu plus loin. La moisissure dans les systèmes de ventilation d'écoles ou d'hôpitaux ont fait les manchettes. Le problème est aussi présent dans certaines maisons. Alors, une exposition prolongée aux moisissures peut entraîner des problèmes respiratoires. Des chercheurs proposent donc de modifier génétiquement des plantes d'intérieur pour qu'elles produisent, comme pour le tabac, ce qu'on a vu précédemment, des protéines fluorescentes lorsqu'elles sont exposés aux composés volatiles des moisissures. La technique serait différente pour le radon. Alors écoutez bien, ce gaz radioactif est produit naturellement dans le sol et s'accumule dans les maisons en passant par les fentes des fondations. Sans qu'on le sache, bien sûr, il passe incognito. Mais il est la deuxième cause de cancer du poumon au Canada après la cigarette et le seul moyen de le détecter est de faire tester sa maison. Les chercheurs ont donc imaginé une plante qui produirait des protéines fluorescentes qui cesseraient d'être fluorescentes lorsque le radon est dans l'air. Ces plantes de maison n'existent pas encore. Il faudra, bien sûr, beaucoup de recherches en génétique afin de les créer. Toutefois, si les chercheurs vont de l'avant, ces plantes pourraient nous donner une grande quantité d'informations sur les produits nocifs dans notre environnement et, bien sûr, contribuer à prévenir certaines maladies. Après les cellulaires et les électroménagers, les plantes de l'avenir pourraient peut-être être aussi intelligentes. C'était donc un article de Bruno Manuguera Gagné et c'était pour le site Info Radio-Canada du 27 juillet 2018. Alors, oui. Alors, en complément, un petit article qui traite des arbres. Alors, pourquoi les arbres d'une même espèce n'ont pas la même taille? Avez-vous une réponse, Maurice, Francis?
Question génétique.
Manque d'eau?
Ah, c'est pas loin. Alors, tous les chênes n'ont pas la même taille. Même chose pour les ormes ou les frênes. C'est que tous les arbres, quelle que soit leur espèce, voient leur hauteur limitée par le même facteur, le coût énergétique de la fabrication du bois, indispensable au transport de la sève. Alors, lorsque la plante parvient à une certaine hauteur, la dépense énergétique devient trop forte et l'arbre ne peut plus répondre aux besoins de la croissance du bois. Chez les chênes, ce plafond est de 50 mètres, alors qu'il dépasse les 100 mètres pour les séquoias et se limite à 5 pour les prunelliers. Mais ce coût varie aussi au sein d'une même espèce, pour chaque individu, selon sa stratégie écologique, la disponibilité de l'eau dans le sol ou la présence de vent. Alors, c'est pourquoi un chêne qui évolue dans une forêt plutôt humide pourrait être 5 fois plus grand que lorsqu'il pousse dans une région plus aride. Alors voilà, c'était le secret de la taille des arbres. Alors maintenant, Francis, vous allez nous parler un peu de l'histoire qui entoure les principes du mindfulness et de la pleine conscience et par le fait même de la respiration. Est-ce que j'ai bien compris la leçon?
Oui, très, très bien.
Merci.
Donc, d'abord, peut-être, débutons avec vous dire que c'est un amalgame, ce texte, cette présentation est un amalgame d'informations diverses recueillies sur une quantité de sites Internet qui parlent du sujet. Donc, d'abord, le texte fondateur. Il s'appelle Satipatthana Sutta. Il est à l'origine de la pratique de la méditation bouddhique et de son application que nous appelons pleine conscience. En sanskrit, ce terme signifie établissement de l'attention ou application de la présence d'esprit. À l'origine, le Satipatthana Sutta est un discours du Bouddha décrivant l'établissement de l'attention qualifiée d'attention juste. Cette attention s'appuie sur les 4 applications de la présence d'esprit qui sont la seule voie conduisant à l'atteinte de la purification, à la maîtrise de la douleur et des lamentations, à la cessation de la peine et du chagrin, à l'entrée à la voie parfaite, c'est le meilleur moyen, et à la réalisation du Nibbana. Dit autrement, c'est l'atteinte de la plénitude humaine.
C'est un grand objectif.
Oui, c'est le but d'une vie et celui de la plupart des moines bouddhiques. À noter que l'atteinte du Nibbana, que nous connaissons sous le nom de Nirvana, c'est un état de conscience qui, selon le canon bouddhique, mène à la libération, c'est-à-dire à la fin de la chaîne des réincarnations qui est à la base du bouddhisme et de l'hindouisme, que l'homme subit, réincarnation, que l'homme subit tant qu'il n'a pas purifié son être. Donc, bref, lorsqu'ils sont purs, ils ne reviennent plus. Le Satipatthanasutta présente quatre types d'attention. L'attention au corps, à travers notamment des exercices de respiration, c'est ce que pratique la pleine conscience. L'attention aux sensations, qui est aussi intégrée à la pleine conscience. L'attention à l'esprit, qui est partiellement compris dans la pleine conscience. Et finalement, l'attention aux formations mentales ou à la phénoménologie de notre expérience, qui n'est pas inclus dans la pleine conscience. On pourrait dire que c'est une description bouddhique de la psychologie et de la psychanalyse. Donc, il y a cinq sortes de formations mentales à observer à l'aide de la méditation. 1. Les obstacles. 2. Les agrégats. 3. L'expérience des sens. 4. Les facteurs d'éveil. Et 5. Les nobles vérités. Tout ça mériterait des livres de développement. Et oui, c'est une façon de concevoir la psychologie et la psychanalyse de façon, disons, orientale. Revenons maintenant au messager du Satipatthana Sutta, pardon, pas le Satipatthana, mais Satipatthana Sutta, leur interprète contemporain. La pratique de la méditation est devenue populaire en Occident au XXe siècle, notamment par l'intermédiaire de moines birmans, entre autres le Maharshi Sayadaw. Les noms sont un petit peu difficiles à dire. Ce sont des moines birmans du début du siècle. Ces trois moines birmans ont actualisé la pratique méditative. Une partie importante, a consisté à recréer un vocabulaire simple et facile à appliquer par le méditant. Une des caractéristiques de leur narration de l'expérience méditative consiste à utiliser le participe présent pour décrire l'observation du méditant. Ainsi, lorsque son attention est détournée de son objet premier, comme la respiration, par une pensée, il dira mentalement « pensant », pour ensuite reporter son attention sur la respiration. Si le méditant veut entreprendre une action comme boire une gorgée d'eau, il décortiquera chacune des opérations menant à boire. Ainsi, il pourrait noter « ayant l'intention de prendre une gorgée d'eau », tendant la main vers le verre, prenant le verre, rapprochant le verre de la bouche. Là, je ne boirai pas le verre.
Non, d'accord.
De cette manière, il tente de diminuer la place de l'ego, du moi, du je, dans l'action pour adopter un point d'observation plus neutre.
Alors, j'allais dire, c'est un peu comme un miroir.
Oui.
On s'observe dans l'action.
Oui.
D'accord.
On pourrait dire que si on était une partie de hockey, il y aurait un narrateur pour décrire ce qui se passe.
D'accord.
En même temps, cette action ralentit chacune des actions du méditant et accroît la précision de son observation sur lui-même. La pleine conscience en Occident. Bien que cette pratique soit issue du bouddhisme, elle a trouvé deux types d'applications en thérapie cognitive. La réduction du stress, qui a un nom scientifique MBSR, qui a été développé par Jon Kabat-Zinn, qui est le prêche, l'évangéliste du mindfulness.
Mais qui est quand même médecin.
Oui, oui. Cette méthode qui est maintenant appliquée par 200 hôpitaux américains. Et elle fonctionne. Une étude de l'Université d'Oxford, qui date d'avril 2015, a démontré qu'une thérapie basée sur la méditation de pleine conscience est une alternative aussi efficace qu'un traitement par antidépresseur dans la prévention d'une rechute dépressive. Quand même étonnant.
Intéressant.
À l'Université de Montréal, revenons ici, depuis 2013, des ateliers de méditation pleine conscience, aussi connus sous le nom de mindfulness, sont obligatoires pour les étudiants de la faculté de médecine de l'Université de Montréal.
Intéressant.
Obligatoire.
Obligatoire.
Oui. Dans une entrevue au journal Forum, le docteur Hugues Cormier, qui est à l'origine de cette initiative, qui est psychiatre et professeur à la faculté, déclarait De plus en plus de patients viennent voir un médecin et lui demandent « Mais qu'est-ce qu'il faut que je mange, docteur? À part l'activité physique, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? » Avec notre formation sur le mindfulness, le médecin peut maintenant répondre « La méditation, vous connaissez ça? » C'est pourquoi il est important que les médecins aient une connaissance de base du phénomène de pleine conscience. Sur un site Internet, le docteur Cormier explique les principales étapes de la pratique de la méditation pleine conscience. Une dizaine de courtes vidéos décrivent comment faire. Pour y arriver, il suffit de faire une recherche Google avec les termes « Université de Montréal » et « pleine conscience ». Soit dit en passant, comme ce sont des vidéos et que l'essentiel de l'information est dans le texte sonore, les gens qui sont malvoyants ou ceux qui, comme nos auditeurs, préfèrent écouter que lire, peuvent suivre le contenu sans problème.
Ah, c'est très bien. Ben, merci beaucoup, M. Marin. On en sait beaucoup plus sur la pleine conscience et ou le mindfulness.
Voilà.
Alors, on poursuit peut-être dans le domaine plutôt médical. C'est un article qui vient de la salle de presse de l'UdeM Nouvelle, qui date du 23 juillet 2018 et qui s'intitule « Maladie du cœur et traitement, les femmes et les personnes âgées mises sur la touche ». Alors, quand vient le temps pour un médecin de déterminer le meilleur traitement pour un patient? Les résultats des essais cliniques réalisés sur les traitements disponibles vont orienter son choix. Or, ces dernières années, il a été démontré qu'à l'inverse des idées reçues, les femmes sont plus nombreuses à souffrir de maladies cardiovasculaires que les hommes. Et il en est de même pour les personnes âgées au regard des tranches plus jeunes de la population. Pourtant, une étude qui a été publiée dans le Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes et menée par le docteur Kwok Din Nguyen, qui est professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, indique que les chercheurs continuent de tester de nouvelles interventions sur des personnes de 63 ans d'âge moyen, composées en grande majorité d'hommes, soit pour 71%. Alors que la population générale atteinte de maladies cardiaques est composée en majorité de femmes et de personnes âgées entre 68 et 69 ans. Donc, il y a un petit écart au sujet sur les sujets, quoi. Cette sous-représentation des femmes et des personnes âgées dans les essais cliniques peut avoir des conséquences fâcheuses sur les soins prodigués à ces deux groupes de patients. En effet, le corps d'une personne âgée ne réagit pas de la même façon que celui d'une personne plus jeune à plusieurs interventions ou médicaments. Souvent, les doses ou les effets secondaires peuvent être différents, mais pour les connaître, il faut entreprendre des essais cliniques sur un nombre significatif de personnes âgées. La même logique s'applique bien sûr pour les femmes. Cela oblige les médecins à appliquer des résultats obtenus chez des patients de l'autre sexe ou plus âgés, sans avoir donc la certitude que cette généralisation est adéquate. Ce sont d'ailleurs des discussions avec des collègues et des questionnements récents sur cette problématique qui ont poussé le docteur Nguyen, alors qu'il faisait sa résidence en gériatrie, à se lancer dans cette étude d'envergure en collaboration avec des médecins résidents d'autres spécialités, soit l'anesthésie, la psychiatrie, la médecine d'urgence et la cardiologie. L'équipe de résidents a scruté les 25 essais cliniques les plus cités et donc les plus influents chaque année sur une période de 20 ans, soit de 1996 à 2015, afin de comparer l'âge et le sexe des sujets aux données sur la prévalence des maladies cardiovasculaires dans la population américaine. Et ça a été publié dans le National Health and Nutrition Examination Surveys 2015-2016. Les maladies cardiovasculaires examinées dans cette étude sont la maladie coronarienne, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension et les facteurs de risque cardiovasculaire. Le diabète a aussi été étudié, puisque les diabétiques courent de 2 à 4 fois plus de risques de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. Les résultats révèlent que les femmes ne sont représentées qu'à 29 % dans les 500 essais cliniques analysés et la moyenne d'âge des sujets n'est que 63 ans. Ça confirme donc ce que l'on disait au tout début. On se rend compte qu'on est bien loin de la population qui est traitée. Dans les cas des maladies du cœur, la sous-représentation la plus importante des femmes et des personnes âgées concerne les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque. Par exemple, 54,6% des personnes atteintes de maladies coronariennes aux États-Unis sont des femmes, mais les essais cliniques sur cette maladie ne comptent que 27,4% de femmes. D'où l'inquiétude quant à la posologie qu'on peut, du choix de médicaments que l'on peut faire. Les médecins et les chercheurs ont longtemps cru que les maladies du cœur touchaient surtout les hommes, mais la recherche médicale a montré que c'était faux. Mais pourquoi est-ce comme ça? En réalité, plus de femmes que d'hommes décèdent aujourd'hui d'une maladie cardiaque, deuxième cause de mortalité au Québec, mais en sont affectées plus tardivement au cours de leur vie, soit environ 10 ans plus tard que les hommes, ce qu'on n'avait pas considéré. Alors, de plus, la mortalité chez les hommes liée aux maladies cardiaques a énormément diminué, en fait, davantage que chez les femmes, car selon l'une des hypothèses les plus plausibles de la littérature scientifique, les médecins sous-évalueraient le risque chez les femmes, qui seraient donc moins souvent traitées que chez les hommes, encore une fois en se basant sur l'écart de l'âge. Aux États-Unis, la population des 65 ans et plus doublera d'ici une trentaine d'années. Au Québec, comme ailleurs, les premiers baby-boomers ont atteint 73 ans. La demande de soins en cardiologie va donc exploser dans les prochaines années. Alors, le docteur Nguyen nous dit qu'ils ont la responsabilité de faire mieux. Il faut recruter plus de femmes et de personnes âgées pour les essais cliniques en assouplissant et en mettant en œuvre, en fait, des moyens pour favoriser leur participation, en demandant la collaboration des familles, entre autres, et en mettant en place une logistique de transport, parce que comme elles sont plus âgées, ben, ils sont moins enclins à participer. Il faudra aussi que les agences réglementaires instaurent une réglementation plus sévère pour améliorer la représentation de ces deux groupes de personnes. En fait, il en va de la qualité des soins que l'on offre à la population. Alors, merci au docteur Nguyen de faire ses recherches. C'était donc un article qui venait de la salle de presse de UdeM Nouvelles et c'est daté du 23 juillet. Oui, M. Marin?
Oui, de toute manière, comme maintenant la majorité des diplômés en médecine est constituée de femmes, j'ai l'impression que la pratique médicale et la recherche médicale devraient se féminiser systématiquement dans les années à venir.
Peut-être, on se le souhaite en tout cas. Alors, une petite brève sur des révélations qui concernent un squelette que l'on a trouvé il y a quelques années.
Une étude dans la revue Genome Research met fin à un mystère de plus de 15 ans, celui d'Ata, un minuscule squelette d'à peine 15 cm retrouvé en 2003 derrière une église dans une pochette en cuir en plein désert d'Atacama, au Chili. Présentant 10 paires de côtes, quand les humains en ont une douce, et un crâne très allongé, surmonté d'une crête. Ata a soulevé de nombreuses théories, dont celle de l'extraterrestre. Cette thèse fut vite écartée, l'analyse de l'ADN démontrant qu'il s'agissait bien d'un humain, probablement un enfant avec des malformations. La nouvelle étude, après examen plus approfondi du génome, révèle qu'Ata était une fille, mort-née ou décédée juste après sa naissance, il y a à peine 40 ans, avec des mutations génétiques rares associées au nanisme et à des malformations osseuses.
Merci beaucoup. Une dernière petite nouvelle, en fait, qui touche le tombeau de Toutankhamon. Alors, c'est un véritable soulagement. Les taches brunes criblant la peinture murale du tombeau en Égypte ne constituerait pas une menace. Une analyse menée par des spécialistes du Getty Conservation Institute a révélé que les organismes responsables de ces tâches étaient déjà présentes lors de la découverte de la tombe en 1922 et ils sont bel et bien morts. Alors, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, de votre écoute. Merci à M. Marin d'avoir été, de m'avoir accompagné et aussi à M. Mathieu.